à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la volonté manifeste de nos soi-disant représentants d'affaiblir tous les communs, tout ce qui ressemble à de la solidarité et à de l'entraide, quand il s'agit des Pékins moyens, bien sûr. On a encore pu entendre, mardi 13 mai, à la télé, le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de pété de la rep, rabâcher qu'il faut baisser les charges. Qui sont de fait des cotisations. Des cotisations pour alimenter la Sécu. Et il a proposé, sans la citer, la TVA sociale, donc une augmentation du prix des marchandises achetées. Ce qui fait ni chaud ni froid aux richoux, puisqu'ils sont largement assez riches pour se payer ce dont ils ont besoin pour survivre, mais qui fera finalement financer la couverture sociale par la consommation des salariés de base, des exploités de base, des employés de base, de la base. Le lendemain, à la radio, c'est la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, qui en rajoute en faisant comme si elle défendait le salaire des prolos et autres exploités. De fait, l'État, en tant qu'entité indépendante du peuple, creuse le trou de la Sécu depuis le début des allègements de cotisations sociales pour les employeurs. Et pour sauver notre modèle social, il faut sauver la Sécu. Mais pour sauver la Sécu, il faudra arrêter de creuser le trou. Ouais. Depuis la fin des années 1980, ces allègements de cotisations sociales créent le trou de la Sécu. Mais comment allez-vous me dire ? Eh bien parce que il y a un certain nombre d'exonérations de cotisations qui ne sont pas compensées par l'État. En 2020, c'était 1,9 milliard d'euros qui manquent aux caisses de la Sécu. 2 milliards en 2021, 2,5 milliards en 2022, si on remonte en 1989 et il n'y a pas eu les mêmes montants à chaque fois, on atteint des sommets. Je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent que 2022, mais 2,5 milliards, ça doit être à peu près ce qui se passe actuellement. Ces chiffres viennent de l'ACOSS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui passe son temps à gérer les sous de la Sécu pour l'URSSAF. Donc, ils sont au premier rang de l'information. Les libéraux au pouvoir proposent de continuer à ruiner la Sécu en allégeant encore les cotisations, sans compenser l'ensemble des mesures. Alors toi qui crois que tu vas devenir plus riche parce que ton net se rapproche de ton brut, tu auras l'air fin à la porte de l'hôpital à pester contre les services publics qui ne peuvent pas soigner ton tibia pété au ski parce que tu ne peux pas prouver que tu as les moyens de payer une prise en charge que la Sécu ne paiera plus. T'auras l'air fin. On aurait pu vous parler de la volonté manifeste de nos soi-disant représentants d'affaiblir tous les communs, sauf ce qui ressemble à de la solidarité à de l'entraide, quand il s'agit des membres de leur classe sociale. L'humoriste d'extrême droite qui s'étouffe quand on lui parle de violence policière, qui nous sert de ministre de la justice de classe, c'est moi qui rajoute, a envoyé un courrier au magistrat cette semaine. Dans ce courrier, pour lutter contre la surpopulation carcérale, Gérald Darmanin propose de ne plus enfermer, entre autres, les auteurs de délinquance financière. L'entraide existe, elle concerne surtout la bourgeoisie. Eh bien, toi qui n'en es pas, tant pis pour toi. On aurait pu vous parler du wokisme. Mais quel wokisme ? Eh bien, le wokisme W-A-U. De W-A-U. QUI, le wokisme qui est l'idéologie très droitière de Laurent Wauquiez et de ses idées et des idées pardon du ravi de Vendée qui triche à Interville, puisque les deux s'affrontent pour la direction du Parti des Républicains. Mais bon, on va attendre de savoir lequel gagne, hein, ça va éviter des répétitions à base d'exploitation des ressources humaines, ils sont tout à fait d'accord, de racisme, ils sont tout à fait d'accord, de lutte contre les aides aux pauvres qualifiées d'assistanat, ils sont tout à fait d'accord. J'en passe, et du pire. On aurait pu vous parler de tout ça, mais finalement on a préféré vous parler d'Ivan Illich. À l'heure de la brutalisation des rapports sociaux, tiens, par exemple, un Wauquiez qui propose un RSA de 2 ans pour plaire à son public de droite qui doit voter pour lui, par exemple, alors que des flots de conneries, d'insultes sont échangés quotidiennement, y compris les dimanches et les jours fériés sur les réseaux dits sociaux, nous nous sommes dit qu'un petit rappel de l'idée de convivialité n'était pas de trop. Aussi, en octobre 2020, on avait consacré une émission à Ivan Illich. Et du coup, on avait pondu ça, ça dure 23 minutes, on se retrouve après. Ivan Illich est né à Vienne. En 1926, il connaît l'antisémitisme qui touche sa mère, juive convertie. Il fuit l'Autriche en 1942 vers l'Italie, où il participe à la résistance contre les nazis et finit ses études. des études de curé. Il devient prêtre, travaille pour le Saint-Siège à Puerto Rico. Très critique contre l'institution religieuse, il quitte l'église en 1961 à la suite d'un différend sur des capotes anglaises. Dès lors, il ne cessera de tenter d'instruire ses contemporains sur les méfaits du libéralisme et des institutions qui le servent. Car pour Ivan Illich, le libéralisme et sa volonté d'accumuler n'est pas compatible avec la vie humaine, une vie autonome. De plus, les promesses du développement libéral lui semblent une supercherie. Le développement remplace la pauvreté par la misère, assure-t-il. Aussi, il développe l'idée de seuil à ne pas franchir pour que des outils techniques restent des vecteurs de progrès social. Dans un ouvrage intitulé « Énergie et équité », un ouvrage de 1975, on peut lire « On prend encore pour une utopie la conjonction d'une maîtrise optimale de la nature et d'une puissance mécanique limitée. Certes, on commence à accepter une limitation écologique du maximum d'énergie consommée par personne en y voyant une condition de survie. Mais on ne reconnaît pas dans le minimum d'énergie acceptable un fondement nécessaire à tout ordre social, qui soit à la fois justifiable scientifiquement et juste politiquement. Plus que la soif de carburant, c'est l'abondance d'énergie qui mène à l'exploitation. Pour que les rapports sociaux soient placés sous le signe de l'équité, il faut qu'une société limite d'elle-même la consommation d'énergie de ses plus puissants citoyens. La première condition en est une technique économe en énergie, même si celle-ci ne peut garantir le règne de l'équité. De plus, cette troisième possibilité est la seule qui s'offre à toutes les nations. Aujourd'hui, aucun pays ne manque des matières premières ou des connaissances nécessaires pour réaliser une telle politique en moins d'une génération. La démocratie de participation suppose une technique de faible consommation énergétique et réciproquement, seule une volonté politique de décentralisation peut créer les conditions d'une technique rationnelle. On néglige en général le fait que l'équité et l'énergie ne peuvent augmenter en harmonie, l'une avec l'autre, que jusqu'à un certain point. En deçà d'un seuil déterminé d'énergie par tête, les moteurs améliorent les conditions du progrès social. Au-delà de ce seuil, la consommation d'énergie augmente aux dépens de l'équité. Plus l'énergie abonde, plus le contrôle de cette énergie est mal réparti. Il ne s'agit pas ici d'une limitation de la capacité technique à mieux répartir ce contrôle de l'énergie, mais de limites inscrites dans les dimensions du corps humain, les rythmes sociaux et l'espace vital. Nos limites devraient, pour Ivan Illich, servir de guide à l'extension des outils techniques et de l'énergie qui les meut. Pour Illich, la dérive de l'accumulation entraîne un contrôle social obligatoire. Toujours dans « Énergie et équité », page 386. Dans les travaux antérieurs, j'ai montré qu'au-delà d'une certaine valeur du PNB, le produit national brut, les frais du contrôle social croissent plus vite que le dit PNB et deviennent l'activité institutionnelle qui détermine toute l'économie. La thérapie que dispensent éducateurs, psychiatres et travailleurs sociaux doit venir s'ajouter au programme établi par les planificateurs, les gestionnaires et les directeurs de vente et compléter l'action des services de renseignement de l'armée et de la police. Mon analyse de l'industrie scolaire avait pour objet de le prouver dans un domaine restreint. Ici, je voudrais avancer une des raisons pour lesquelles plus d'énergie consommée demande plus de domination sur autrui. Je prétends qu'au-delà d'un niveau critique de consommation d'énergie par tête dans toute société, le système politique et le contexte culturel doivent dépérir. Dès que le quantum critique d'énergie consommée par personne est dépassé, aux garanties légales qui protégeaient les initiatives individuelles concrètes, on substitue une éducation qui sert les visées abstraites d'une de technologie. Ce quantum marque la limite où l'ordre légal et l'organisation politique doivent s'effondrer, où la structure technique des moyens de production fait violence à la structure sociale. Illich part des axiomes de ses adversaires intellectuels. Ces vérités indémontrées, mais indépassables pour ceux qui les énoncent, portées en étendard et assénées à tous partout comme indépassables. La hausse du PNB, du PIB, la croissance sont des axiomes, dans le sens où leur augmentation sert d'instrument de mesure de la bonne santé économique d'une société, ce qui n'a jamais été démontré. Illich montre justement le contraire. En somme, le seuil dépassé, l'institution qui utilise l'outil devient contre-productive. Et même à l'aune des indicateurs capitalistes, et au lieu de produire du progrès social, elle produit de la destruction de la structure sociale. Il entreprend alors, dès les années 60, d'appliquer ses concepts à l'école et à la médecine. Dans Une société sans école, parue en 1971, il assure: je voudrais commencer cette étude en m'efforçant de faire comprendre ce à quoi pourrait conduire la déscolarisation d'une société scolarisée. Et dans ce contexte, devrait se révéler plus clairement les raisons pour lesquelles mon choix s'est porté sur les 5 aspects spécifiques que j'aborderai ultérieurement et qui se rapportent à ce processus. Je vous enjoins donc, pour tout savoir, à lire « Une société sans école » de ce certain Ivan Illich. Il continue. On peut dire que de nos jours, non seulement l'éducation, mais la réalité sociale elle-même se sont scolarisées. Lorsqu'il s'agit d'enseigner aux pauvres comme aux riches la même soumission à l'école, le coût de l'opération pour les uns et pour les autres est à peu près semblable. Les crédits alloués par élève dans les quartiers déshérités et les riches banlieues d'une quelconque ville des États-Unis, choisies parmi 20 autres, atteignent une somme comparable. Riches et pauvres ont la même confiance dans les hôpitaux et les écoles. Leur vie est influencée par eux. Leur conception du monde reflète cette conviction et ils en tirent la définition de ce qui est à leur lieu légitime ou de ce qui ne l'est pas. Tous considèrent que se soigner seul est un acte irresponsable, qu'acquérir seul son instruction représente un danger. Toute organisation communautaire qui ne serait pas subventionnée par ceux qui détiennent l'autorité leur semblera témoigner d'un esprit de rébellion, où ils verront une entreprise subversive. Tous font confiance au traitement que seule l'institution peut entreprendre, et par conséquent, tout accomplissement personnel en marge de l'institution est matière à suspicion. On parvient ainsi à un sous-développement progressif de la confiance en soi dans la communauté. Ce phénomène est encore plus perceptible à Westchester, dans le nord-est du Brésil, que dans le nord-est du Brésil. Partout, non seulement l'éducation, mais la société dans son ensemble ont besoin d'être déscolarisées. Cette remise en question de la valeur des idées humaines hors de l'institution, avait déjà été édicté dans des textes des années 60, dont un texte intitulé « L'enseignement, une vaine entreprise », dont voici un extrait. « Ces différents budgets contraignent à défendre l'augmentation du budget scolaire en faisant sans cesse état d'un manque de crédit. Mais cela ne saurait porter préjudice aux écoles, parce qu'elles sont essentielles pour assurer le maintien du status quo. Elles filtrent l'éducation et lui retirent en grande partie ses vertus subversives. Dans une société aliénée, si l'éducation ne peut s'acquérir que dans les écoles, seuls ceux qui se sont pliés à leur discipline au niveau inférieur seront admis au niveau supérieur. Dans les sociétés où les capitaux font défaut et qui ne sont pas assez riches pour permettre une durée d'études non limitée, la majorité apprend par l'école non seulement l'acceptation de son sort, mais encore la servilité. Et un peu plus loin, il dit, l'enseignement classe et par là il déclasse. En même temps, il se charge de convaincre les déclassés qu'il leur faut se soumettre, car c'est par l'intermédiaire de l'école que l'on parvient au rang d'adulte dans la société. En quelques points que ce soit de l'Amérique latine, il étudiait à ce moment-là, je vous le rappelle, l'Amérique latine après avoir travaillé à Puerto Rico. En quelques points que ce soit de l'Amérique latine, donner de l'argent aux écoles revient à accorder des privilèges accrus à quelques-uns aux dépens du plus grand nombre. Ce soutien accordé à une élite restreinte se justifie et s'explique au nom d'un idéal politique qui s'inscrit dans les lois, des lois qui définissent l'impossible, le même droit pour tous à l'enseignement. Le nombre de fidèles qui sortent chaque année satisfaits et diplômés est beaucoup plus faible que celui des enseignés ayant connu l'échec, mais qui, du fait même de cet échec, sont tous désignés pour former un réservoir de main-d'œuvre occasionnelle. La pyramide de l'éducation s'élève et chaque degré définit en toute justice un niveau social. Ce que l'on enseigne aux citoyens, c'est de rester à leur place assignée. Cette forme nouvelle de discrimination se justifie, puisqu'elle est favorable à ceux qui ont su gravir les degrés. Ainsi, pour lui, l'école sert le contrôle social, car elle serait pourvoyeuse de mythes. Revenons à l'ouvrage « Une société sans école ». Il existe pour lui le mythe des valeurs institutionnalisées, puisque grâce à l'école, on implique qu'il y a des valeurs spécifiques qui empêchent d'imaginer d'autres valeurs. Ces valeurs, le mythe des valeurs institutionnalisées, ces valeurs, elles serviront encore et toujours ceux qui sont déjà au pouvoir. Et voilà comment, conclut-il à propos de ces valeurs institutionnalisées, voilà comment l'enseignement, entre guillemets, loin de reculer les limites de l'imagination, l'étouffe. Il en indique également qu'il y a d'autres mythes, le mythe des valeurs étalonnées. Ainsi, l'école prétend séparer le savoir en matières distinctes, puis à partir de ces blocs préfabriqués, bâtir conformément à un programme donné, enfin mesurer le résultat selon quelques maîtres étalons universels. Les hommes qui s'en remettent à une unité de mesure définie par d'autres pour juger de leur développement personnel ne savent bientôt plus que passer sous la toise. Il n'est plus nécessaire de les mettre à leur place assignée, ils s'y glissent d'eux-mêmes. Ils se font tout petits dans la niche où leur dressage les a conduits. Au reste, ils n'imaginent plus plus qu'ils puissent en aller autrement pour leurs semblables. Tout doit trouver sa juste place, toute chose et tout être s'assembler sans heurts. Voilà ce qui gêne un tout petit peu Ivan Illich, le fait que ces valeurs étalonnées soient mesurées par, soient dispensées par l'école et mesurées par l'école. Et qu'à partir de là, on se sent soit digne de participer à la société, soit plutôt indigne. Il parle également le mythe des valeurs conditionnées, puisque, je le cite, « l'école assure la vente des programmes qui se présentent comme toute autre marchandise dûment préparée et conditionné. Avant d'en entamer la production, tout commence bien entendu par une recherche qualifiée de scientifique. À partir de cette recherche, les ingénieurs en enseignement vont pouvoir établir les prévisions en matière de demande et d'approvisionnement en outillage pour les chaînes de montage, en tenant compte des restrictions budgétaires et des tabous sociaux. Le service de vente est assuré par l'enseignant qui livre le produit fini au consommateur, en l'occurrence l'élève, dont on relèvera et mettra en fiche les réactions afin de disposer des données nécessaires à la conception d'un autre produit destiné à remplacer le précédent. Nous aurons ainsi une série de modèles différents, programmes sans système de notation, adaptés, conçus pour un travail d'équipe, audiovisuels, regroupés autour de centres d'intérêt, etc. L'école comme produit. Pour Illich, l'école obligatoire est juste un moyen précieux aux détenteurs du pouvoir pour brider l'imagination tout court et l'imagination sociale en prime, tout en n'assurant pas le service pour lequel elle fut créée, à savoir l'enseignement pour tous. Ivan Illich s'attelle à démontrer que la médecine devient aussi une institution contre-productive quand elle acquiert le statut de monopole radical. Ce statut qu'il définit comme le moment où, je cite, « une industrie s'arroge le droit de satisfaire seule un besoin élémentaire, jusque-là l'objet d'une réponse individuelle. Car pour lui, la médicalisation de la santé est une expropriation de la santé. Et les sources non thérapeutiques de la santé se trouvent reléguées au second plan. Au premier plan apparaissent les médicaments, les opérations, nées du diagnostic d'un professionnel comme seule source de bonne santé. Seulement, dans Némésis médical, un livre de 1975, il développe l'idée que l'entreprise médicale menace la santé, la colonisation médicale de la vie quotidienne aliénant les moyens de soins. Et le monopole professionnel dont on parlait, le monopole radical des professionnels de santé sur le savoir scientifique, empêche finalement son partage. De fait, apparaissent les maladies iatrogènes, engendrées par le traitement recommandé. Alors, il y a la maladie iatrogène technique. Le malade devient malade aussi d'être soigné. Hein, les fameuses maladies que vous avez parce que vous avez pris tel médicament ou parce que vous avez subi telle opération. Mais il décline cette idée de maladie iatrogène par une iatrogénèse sociale. Pour lui, l'impact social de la médicalisation de la société entraîne une augmentation des budgets et, de fait, l'exclusion d'une partie de la population qui va renoncer aux soins, une invasion pharmaceutique avec l'augmentation des médicaments psychotropes et une nouvelle vague de médicaments toujours plus chers que la précédente, ainsi qu'un contrôle social par le diagnostic. Puisque en médecine, comme dans le reste de la société, par leurs actions déséquilibrées, les institutions deviennent contre-productives. Et à cette maladie iatrogène technique et cette maladie iatrogène sociale, il adjoint la maladie iatrogène structurelle. De fait, la médecine, par sa présence, modifie culturellement la société. Par une aliénation de la douleur, juste, ça devient juste cette douleur, un problème technique qu'il va falloir soigner par un acte médical et par l'escamotage de la mort que l'on essaye de tout le temps repousser. Par quels moyens? Par exemple des pilules.
Bienvenue à l'ère de la dépendance, où la vie est prescrite sur ordonnance. Pour devenir accro, tout comme un agneau, produit dans le troupeau, esclave des labos. C'est le monster de l'auteur, de l'école des livres, abondamment par le corps médical. Anxiolytique, antidépresseur, méga somnifère, substitut du malheur.
Emprisonné par les cachets et les dealers légalisés, le serpent du caducé
prends la pilule.
Ainsi, Ivan Illich assure que nous perdons toujours plus d'autonomie au fur et à mesure de l'avancée des monopoles radicaux. Celui de la bagnole est pour lui l'un des plus visibles, tant il façonne l'espace. Aussi, dans Équité et Énergie, il explique que le transit, cette faculté de tout humain à se déplacer par le fait de mouvoir ses membres, ça s'appelle marcher, est à peu près remplacée par ce qu'il appelle le transport, qui nécessite un outil technique que l'on ne maîtrise plus. Et le plus souvent, un moteur. Et pourtant, il existerait un outil à hauteur d'homme, le vélo. Dans Équité et Énergie, on peut lire des pages magnifiques sur cet outil. L'homme peut se déplacer sans l'aide d'aucun outil pour transporter chaque gramme de son corps sur un kilomètre en 10 minutes. Il dépense 0,75 calories. Il forme une machine thermodynamique plus rentable que n'importe quel moteur, que n'importe quel véhicule à moteur et plus efficace que la plupart des animaux. Proportionnellement à son poids, quand il se déplace, il produit plus de travail que le rat ou le bœuf et moins que le cheval ou l'esturgeon. Avec ce rendement, il a peuplé la terre et a fait son histoire. À ce même niveau, les sociétés agraires consacrent moins de 5% et les nomades moins de 8% de leur budget temps à circuler hors des habitations ou des campements. À bicyclette, l'homme va de 3 à 4 fois plus vite qu'à pied, tout en dépensant 5 fois moins d'énergie. En terrain plat, il lui suffit alors de dépenser 0,15 calories pour transporter 1 gramme de son corps sur 1 km. La bicyclette est un outil parfait qui permet à l'homme d'utiliser au mieux son énergie métabolique pour se mouvoir. Ainsi outillé, l'homme dépasse le rendement de toutes les machines et celui de tous les animaux. Un peu plus loin, un vélo n'est pas seulement un outil thermodynamique efficace, il ne coûte pas cher. Malgré son très bas salaire, un Chinois consacre moins d'heures de travail à l'achat d'une bicyclette qui durera longtemps qu'un Américain à l'achat d'une voiture bientôt hors d'usage. Les aménagements publics nécessaires pour les bicyclettes sont comparativement moins chers que la réalisation d'une infrastructure adaptée à des véhicules rapides. Pour les vélos, il ne faut de routes goudronnées que dans les zones de circulation dense. Et les gens qui vivent loin d'une telle route ne sont pas isolés, comme ils le seraient s'ils dépendaient de train ou de voiture. La bicyclette élargit le rayon d'action personnel sans interdire de passer où l'on ne peut pas rouler. Il suffit alors de pousser son vélo. Le vélo nécessite une moindre place. Là où se gare une seule voiture, on peut ranger 18 vélos. Et l'espace qu'il faut pour faire passer une voiture livre passage à 30 vélos. Pour faire franchir un pont à 40 000 personnes en une heure, il faut 2 voies d'une certaine largeur si on utilise le train, 4 si on utilise des autobus, 12 pour des voitures et une seule si tous traversent à bicyclette. Le vélo est le seul véhicule qui conduise l'homme de porte à porte à n'importe quelle heure et par l'itinéraire de son choix. Le cycliste peut atteindre de nouveaux endroits sans que son vélo désorganise un espace qui pourrait mieux servir à la vie. Et encore un peu plus loin, la bicyclette permet de se déplacer plus vite sans pour autant consommer des quantités élevées d'un espace, d'un temps ou d'une énergie devenue également rare. Chaque kilomètre de trajet est parcouru plus rapidement et la distance totale franchie annuellement est aussi plus élevée. Avec un vélo, l'homme peut partager les bienfaits d'une conquête technique sans prétendre régenter les horaires, l'espace ou l'énergie d'autrui. Un cycliste est maître de sa propre mobilité sans empiéter sur celle des autres. Ce nouvel outil ne crée que des besoins qu'il peut satisfaire. Au lieu que chaque accroissement de l'accélération produit par des véhicules à moteur crée de nouvelles exigences de temps et d'espace. Du temps et de l'espace comme nous n'en avons plus. Du temps et de l'espace qui sont de fait gaspillés. Tout ça pour aller plus vite. De fait, pour Illich, le vélo est un outil participant à la maturité technique des sociétés humaines. C'est-à-dire l'utilisation adulte des outils. Une maturité qui seule met en œuvre une société conviviale. Il consacre d'ailleurs un ouvrage intelligemment intitulé « La convivialité » à ce concept qui s'appelle « La convivialité ». Je le cite. « J'entends par convivialité l'inverse de la production industrielle. Chacun de nous se définit par la relation à autrui et au milieu, et par la structure profonde des outils qu'il utilise. Ces outils peuvent se ranger en une série continue, avec aux deux extrêmes l'outil dominant et l'outil convivial. Le passage de la productivité à la convivialité et le passage de la répétition du manque à la spontanéité du don. » Alors de fait, lui, il préférait une société conviviale à une société où on nous vend toujours quelque chose, un outil qui de fait va nous amener à manquer à un moment. Et il faudra encore plus, toujours quelque chose de supérieur. La convivialité de Illich servira à dépasser cette société industrielle dans laquelle il voit 5 menaces contre la population. Toujours dans La convivialité. Donc, première menace, la surcroissance menace le droit de l'homme à s'enraciner dans l'environnement avec lequel il a évolué. L'industrialisation menace le droit de l'homme à l'autonomie dans l'action. La surprogrammation de l'homme en vue de son nouvel environnement menace sa créativité. La complexification des processus de production menace son droit à la parole, c'est-à-dire à la politique. Et enfin, le renforcement des mécanismes d'usure menace le droit de l'homme à sa tradition, son recours au précédent à travers le langage, le mythe et le rituel. Voilà qui apparaît des plus gênants. Aussi, avec le concept de la société conviviale, Illich propose une alternative dont les valeurs sont décrites dans l'ouvrage La convivialité. Lui propose, donc, à propos de la convivialité, une telle entreprise collective limiterait les dimensions des outils afin de défendre des valeurs essentielles que j'appellerais survie, équité, autonomie créatrice, mais qu'on pourrait également désigner par les trois critères mathématiques de viabilité, courbe de distribution des inputs et courbe de contrôle des outputs. Ces valeurs sont à la base de toute structure conviviale, même si lois et mœurs varient d'une culture à l'autre. Je vous enjoins également à lire cet ouvrage. De fait, par son travail, Ivan Illich nous enjoint à privilégier notre autonomie contre la puissance industrielle, par la recherche d'équilibre dans l'utilisation des outils, que ce soit une marchandise comme les moyens de transport ou des services comme l'école ou la médecine. Car pour lui, au-delà d'un certain seuil d'utilisation, l'outil devient le maître et empêche alors l'avènement d'une société conviviale. Contre l'accumulation technologique et de pouvoir, il propose la frugalité, l'équité et la liberté. Pour connaître l'actualité du convivialisme, convivialisme.org, même si on n'a pas affaire à des révolutionnaires, et même si la modification radicale de nos rapports sociaux dans le sens convivial pourrait devenir révolutionnaire. Pour la suite, il nous reste peu de temps, mais on vous dit quand même que le samedi 17 mai, il y a une manifestation à 14h contre la guerre éternelle de l'extrême droite israélienne contre les populations palestiniennes, que ce soit à Gaza ou dans les territoires occupés. Le même jour, c'est Place de la République. Le même jour, également Place de la République, samedi 17 mai, journée planétaire de lutte contre les LGBTQIA+ phobies. Rendez-vous à 16h, Place de la République, à l'appel de la CNT, de l'Assemblée Générale Antifasciste Sarthe et du collectif antifasciste de la Sarthe. Rassemblement, manifestation, banderole, pancarte, prise de parole, c'est à 16h, place de la République à Le Mans. On peut vous dire également que le mardi 20 mai, à Fresnay-sur-Sarthe, il y a une expédition plastique avec l'atelier d'écologie populaire et le centre d'études et d'action sociale 72, le CAS 72. Renseignez-vous, pour vous qui habitez pas très loin de Fresnay, et pour ce faire, vous pouvez aller voir sur sarthe.demosphère.com. Et ce samedi également, eh bien, il y a une manifestation place de la... Place de la République, mais Place de la République à Paris, à l'occasion de la journée contre l'agrochimie et vers un autre modèle agroalimentaire. Ça existe depuis 2013 et des dizaines d'organisations essayent de penser autrement la façon de produire de la nourriture. Et du coup, ça ressemble pas du tout à ce que propose la coordination rurale, la FNSEA et tous ceux qui sont pour l'agro-business. Donc si vous êtes sur Paris, il est toujours temps d'y aller puisque ça a lieu toute la journée. Place de la République à Paris, depuis 10h ce matin du samedi 17 mai pour les auditeurs du direct, jusqu'à 19h. Et donc, on termine rapidement en vous disant, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net. Vous apprendrez par exemple que Christelle Morançais est jeudi 22 mai à Marolles-les-Braux, 18h30. Je dis ça, je dis rien. Allez. Au revoir.